Méditation. Une pensée surgit, comme venue de nulle part. Une pensée agréable, ou une autre qui nous trouble. Elle demeure quelques instants, puis s'efface pour être remplacée par d'autres. Lorsqu'elle disparaît, tel le son d'une cloche qui s'évanouit, où est-elle partie? On ne saurait le dire. Certaines pensées reviennent fréquemment dans notre esprit, où elles engendrent des états qui vont de la joie à la tristesse, du désir à l'indifférence, du ressentiment à la sympathie. Les pensées détiennent ainsi l'immense pouvoir de conditionner notre manière d'être. Mais d'où tirent-elles ce pouvoir? Elles n'ont pas d'armée à leur solde. Elles ne disposent pas de combustible pour entretenir une fournaise, ni de pierre pour nous lapider. N'étant que des constructions de l'esprit, elles devraient être incapables de nous nuire. Laissons notre esprit s'observer lui-même. Des pensées y surgissent. L'esprit existe d'une manière ou d'une autre, puisque nous en faisons l'expérience. Hormis cela, que peut-on en dire? Examinons notre esprit et les pensées qui s'y manifestent. Est-il possible de leur attribuer des caractéristiques concrètes? Ont-elles une localisation? Non. Une couleur? Une forme? Plus on cherche, moins on trouve. On constate, certes, que l'esprit possède une faculté de connaître. Mais aucune autre caractéristique intrinsèque est réelle. C'est dans ce sens que le bouddhisme définit l'esprit comme une continuité d'expérience. Il ne constitue pas une entité distincte. Il est vide d'existence propre. N'ayant ainsi rien trouvé qui puisse constituer une substance quelconque, demeurons quelques instants dans cet introuvé. Lorsqu'une pensée survient, laissons-la surgir et se défaire d'elle-même, sans l'obstruer ni la prolonger. Durant le bref laps de temps où notre esprit n'est pas encombré de pensées discursives, contemplons sa nature. Dans cet intervalle où les pensées passées ont cessé, et les pensées futures ne se sont pas encore manifestées, ne percevons-nous pas une conscience pure et lumineuse? Demeurons quelques instants dans cet état de simplicité naturelle, libre de concepts. À mesure que nous nous familiarisons avec la nature de l'esprit, et que nous apprenons à laisser les pensées se défaire dès qu'elles surviennent, comme une lettre écrite avec le doigt à la surface de l'eau, nous progresserons plus aisément sur le chemin de la liberté intérieure. Les pensées automatiques n'auront plus le même pouvoir de perpétuer notre confusion et de renforcer nos tendances habituelles. Nous déformerons de moins en moins la réalité, et les mécanismes mêmes de la souffrance finiront par disparaître. Disposant des ressources intérieures qui nous permettent de gérer nos émotions, notre sentiment d'insécurité fera place à la liberté et à la confiance. Nous cesserons d'être préoccupés exclusivement par nos espoirs et nos craintes, et nous serons disponibles pour tous ceux qui nous entourent, accomplissant ainsi le bien d'autrui en même temps que le nôtre. Source d'inspiration. par Atisha Dipamkara. Les souvenirs passés qui surgissent dans l'esprit ont définitivement cessé. Les pensées qui concernent le futur n'ont pas encore acquis la moindre réalité. L'esprit qui demeure dans le présent est impossible à cerner. Il est dépourvu de forme, de couleur. Pareil à l'espace, il est insubstantiel et irréel. Il est donc possible de comprendre que l'esprit est dénué de toute existence solide. Source d'inspiration par Kensei Rinpoche. Lorsqu'un arc-en-ciel apparaît, lumineux dans le ciel, vous pouvez contempler ses belles couleurs, mais vous ne pouvez pas l'attraper et le porter comme un vêtement. L'arc-en-ciel naît de la conjonction de différents facteurs, mais rien en lui ne peut être saisi. Il en va de même pour les pensées. Elles se manifestent dans l'esprit, mais elles sont dépourvues de réalité tangible et de solidité intrinsèque. Aucune raison logique ne justifie donc que les pensées, qui sont insubstantielles, disposent de tant de pouvoir sur vous. Aucune raison pour que vous en soyez l'esclave. L'infinie succession de pensées passées, présentes et futures, nous conduit à penser qu'il existe quelque chose qui serait là de manière inhérente et permanente. Nous appelons cela l'esprit. Mais en fait, les pensées passées sont aussi mortes que des cadavres, et les pensées futures ne sont pas encore survenues. Alors, comment ces deux catégories de pensées qui n'existent pas pourraient-elles constituer une entité qui, elle, serait existante? Et comment la pensée présente pourrait-elle s'appuyer sur deux choses inexistantes? Cependant, la vacuité des pensées n'est pas simplement du vide, comme on pourrait le dire de l'espace. Il y a là, présente, une conscience spontanée, une clarté comparable à celle du soleil qui éclaire les paysages et permet de voir les montagnes, les chemins et les précipices. Bien que l'esprit soit doué de cette conscience intrinsèque, affirmer qu'il y a un esprit, c'est apposer l'étiquette de réalité sur quelque chose qui n'en a pas. C'est énoncer l'existence d'une chose qui n'est qu'un nom donné à une succession d'événements. On peut appeler collier l'objet constitué par des perles enfilées. Mais ce collier n'est pas une entité douée d'une existence intrinsèque. Quand le fil casse, où est le collier? Source d'inspiration par Yongay Mingyu Rinpoche. Peu à peu, je commençais à reconnaître la fragilité et le caractère éphémère des pensées et des émotions qui m'avaient perturbé pendant des années. Et je comprenais comment, en me focalisant sur de petits ennuis, je les avais transformés en énormes problèmes. Du seul fait de rester assis, à observer à quelle vitesse et sous bien des aspects avec quel illogisme, mes pensées et mes émotions allaient et venaient, je commençais à voir directement qu'elles n'étaient pas aussi solides et réelles qu'elles en avaient l'air. Puis, une fois que j'eus commencé à lâcher prise sur ma croyance, à l'histoire qu'elle avait l'air de me raconter, je perçus peu à peu l'auteur qui se cachait derrière. La conscience infiniment vaste, infiniment ouverte, qui est la nature même de l'esprit. Toute tentative de décrire par des mots l'expérience directe de la nature de l'esprit est vouée à l'échec. Tout ce que l'on peut en dire, c'est qu'il s'agit d'une expérience infiniment paisible, et une fois stabilisée par une pratique répétée, quasiment inébranlable. C'est une expérience de bien-être absolu qui imprègne tous les états physiques et mentaux, même ceux qui sont normalement considérés comme déplaisants. Ce sentiment de bien-être indépendant de la fluctuation des sensations venues de l'extérieur ou de l'intérieur, est l'une des manières les plus claires de comprendre ce que le bouddhisme entend par bonheur. Source d'inspiration par Pema Vangyal Rinpoche. La nature de l'esprit est comparable à l'océan, au ciel. L'incessant mouvement des vagues à la surface de l'océan nous empêche d'en voir les profondeurs. Si nous plongeons, il n'y a plus de vagues. C'est l'immense sérénité du fond. La nature de l'océan est immuable. Regardons le ciel. Il est parfois clair et limpide. D'autres fois, des nuées s'y accumulent, modifiant la perception que nous en avons. Pourtant, les nuages n'ont pas changé la nature du ciel. L'esprit n'est rien, sinon la nature totalement libre. Demeurons dans la simplicité naturelle de l'esprit, qui est au-delà de tout concept. Dédier les fruits de nos efforts. À la fin d'une séance de méditation et avant de reprendre le cours de nos activités, il importe de jeter un pont entre notre pratique et la vie quotidienne, de sorte que les fruits de cette pratique se perpétuent et continuent de nourrir notre transformation intérieure. Si nous interrompons brusquement notre méditation pour reprendre nos activités comme si de rien n'était, la pratique de la méditation n'aura que peu d'effet sur notre existence, et ses bienfaits seront aussi éphémères que des flocons de neige tombant sur une pierre brûlante. Une manière d'assurer la continuité des bienfaits de la méditation consiste à les dédier par le biais d'une profonde aspiration dont l'énergie positive se perpétuera jusqu'à ce que son objet se réalise, à l'image d'un flocon de neige qui tombe et se dissout dans l'océan, et durera aussi longtemps que l'océan lui-même. À cette fin, formulons ce vœu. Puisse l'énergie positive engendrée non seulement par cette méditation, mais par tous mes actes, paroles et pensées bienveillantes, passées, présentes et futures, contribuer à soulager les souffrances des êtres, à court et à long terme. Souhaitons du fond du cœur que par le pouvoir de ce que nous avons fait, les guerres, les famines, les injustices et toutes les souffrances causées par la pauvreté et les maladies physiques ou mentales s'apaisent. Pensons que cette dédicace des bienfaits de nos actes n'est pas comme le partage d'un gâteau entre 1000 personnes qui n'en recueilleraient chacune que quelques miettes, mais que chacun des êtres en reçoit la totalité. Souhaitons également que tous les êtres trouvent le bonheur, à la fois temporaire et ultime. Puisse l'ignorance, la haine, l'avidité et les autres perturbations être éradiquées de leurs esprits, et puissent-ils atteindre la plénitude des qualités humaines, ainsi que le suprême éveil. Une telle dédicace constitue un sceau indispensable à toute pratique spirituelle, et permet à l'énergie constructive engendrée par notre méditation et tous nos actes positifs de se perpétuer. Unir méditation et vie quotidienne. La méditation est un processus de formation et de transformation. Pour avoir un sens, elle doit se refléter dans chaque aspect de notre manière d'être, chacune de nos actions et de nos attitudes. Sinon, ce n'est qu'une perte de temps. Nous devons donc persévérer avec sincérité. vigilance et détermination, et vérifier qu'au fil du temps, de réels changements se produisent en nous. Certains affirment dès le départ que toutes les activités de leur vie sont une méditation. S'il est indéniable que le but de l'entraînement de l'esprit est de nous rendre capables de maintenir une certaine façon d'être dans toutes nos activités, déclarer d'emblée que la vie est une méditation semble un peu prématuré. Le tourbillon de la vie quotidienne nous laisse rarement l'occasion d'acquérir la force et la stabilité nécessaires à la pratique méditative. C'est pour cela qu'il est important de consacrer du temps à la méditation elle-même, ne serait-ce que 30 minutes par jour, si possible plus. Effectuée notamment le matin, au lever, la méditation donnera un tout autre parfum à notre journée. Ses effets imprégneront de manière discrète mais profonde nos attitudes et la manière dont nous mènerons nos activités et interagirons avec ceux qui nous entourent. Pendant le reste de la journée, fort de l'expérience acquise, nous pourrons nous référer intérieurement à l'expérience de la méditation formelle qui restera encore vivante dans notre esprit. Lorsque nous disposerons de quelques moments de répit, il nous sera plus facile de nous replonger dans une qualité d'être devenue familière et de maintenir la continuité de ses effets bienfaisants. Une telle pratique est tout à fait compatible avec la vie active, professionnelle et familiale. Ces effets nous permettront de situer les événements de notre existence dans une perspective plus vaste et de les vivre avec davantage de sérénité sans pour autant tomber dans l'indifférence, d'accepter ce qui survient sans pour autant être résigné et de construire le futur en l'étayant sur une motivation altruiste et confiante. C'est ainsi que, peu à peu, grâce à l'entraînement de l'esprit, nous pourrons changer notre manière d'être habituelle. Nous bénéficierons d'une compréhension plus juste de la réalité, et de ce fait, nous serons moins choqués lorsque des changements brutaux se produiront dans notre existence, et moins infatués par nos succès superficiels. Ce seront là autant de signes d'une transformation personnelle authentique qui nous permettra de mieux agir sur le monde dans lequel nous vivons et de contribuer à la construction d'une société plus sage et altruiste.
Merci et à bientôt chez Audible.